C'est quoi, voyelle?
Voyelle,
une émission faite par des dames à moustache.
Crête ou à
des meufs à crête ou à bouclette.
Et aussi celles qui aiment cueillir des pâquerettes. Des meufs qui ont des poils aux pattes. Celles qui bandent leur sein. Et aussi des meufs fatales.
Tu sais, celles qui dépalent.
Celles qui minent.
Celles qui gueulent.
Celles qui ont leur mot à dire. Des guerrières à talons hauts. Et des pirates du genre. Voyelle,
c'est une émission faite par des femmes, des meufs, des gouines, des trans, des bis. Et toutes celles et ceux qu'on oublie. Pour tout le monde.
Tout le monde.
Mais pourquoi venez-vous me demander ça? Je ne suis pas professeur de besme. Comment, vous en avez vu d'autres? À qui vous avez demandé ça? De toute façon, à Paris, nous aimons la diversité. Il y a plusieurs façons de baiser la main. On peut embrasser le bout des doigts, le creux de la main. Un seul doigt, ça fait léger et mondain. La pomme de la main, en essayant de la croquer. Là-dessus, c'est pas mal. Hein. En essayant de la croquer, ça fait gentil, ça fait Adam et Ève, n'est-ce pas? Là-dessus, maintenant, le dessus de la main, en essayant de monter jusqu'au coude. Ce baisement-là, ben, c'est un peu osé. Mais permis jusqu'au coude. Hein? Bon. Maintenant, le plus beau, eh ben, c'est une main joliment donnée. Il se fait en regardant les yeux de la femme.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous écoutez l'émission Voyelle sur Radio Canal Sud 92.2. Vous pouvez nous contacter pendant l'émission si vous avez envie de réagir à ce qui se dit au 05 61 53 36 95. Mais vous pouvez aussi réécouter cette émission ou nos précédentes émissions sur le site de Canal Sud, donc c'est canalsud.net, ou sur le site de Radio Rageuse, le collectif de radio féministe d'ici et d'ailleurs, sur le site radiorageuse.net. Et ce soir, au sommaire de l'émission, on va parler des rencontres de Saint-Girons. On était déjà revenu dessus à une précédente émission et donc on va continuer à débriefer de ces rencontres avec nos invités. Et dans un second temps, on parlera des luttes au CHU.
Alors, on se lance tout de suite dans le premier sujet de la soirée. Et donc, tu le disais, cette émission, c'est une suite d'une précédente émission. On était donc revenu dans l'émission dernière sur les folles rencontres féministes qui ont eu lieu le 27 mars à Saint-Girons. Et en fait, la dernière émission, c'était surtout qu'on avait passé un montage qui revenait sur certains moments de la journée. Et en fait, on a travaillé sur le fait que... À cette dernière émission, on n'avait pas du tout visibilisé le fait que cette journée, c'était aussi un moment où il y a eu plein d'échanges autour des luttes trans. Il y a eu notamment un atelier transidentité féministe et féminisme, pardon. Il y a eu des lectures de textes, il y a eu un concert de Divine Céleste. Et donc aujourd'hui, en revenant sur cette journée, c'était vraiment de ces moments-là qu'on voulait parler. On a avec nous pour l'instant, deux invités, peut-être un autre invité par téléphone, mais tout ça a l'air très en suspens. En tout cas, on peut entamer tout de suite en vous demandant si vous avez envie, en quelques mots, de vous présenter, de dire un peu, pendant cette journée, ce que vous proposiez ou pourquoi vous étiez là.
Oui, donc bonsoir. Marion, donc j'étais une des personnes qui ont organisé cet événement et participé à l'événement. Je pourrais parler un peu de tout ce qui a été fait en amont de la journée, pendant la journée et un peu de la suite. On verra ça tout à l'heure.
Salut à toutes, tous. Moi, je suis Jams et du coup, j'ai participé à la journée parce que je connaissais Marion et Yidir et que je me sentais bien à l'aise de proposer quelque chose pendant cette journée-là. Et donc, j'ai fait un atelier, facilité un atelier de transidentité et féminisme. Dont je pourrais parler, et puis je me suis même motivée pour lire un texte qu'on va entendre, je crois, plus tard.
Tout à fait.
En attendant notre troisième invité, on peut quand même tout de suite lancer la discussion. D'abord, revenir sur un peu l'orga de cette journée, justement, comment elle a été pensée en amont.
Est-ce que, du coup, vous avez envie de nous dire quelques mots sur un peu ce qui vous a amené à proposer cette journée?
Je pense qu'il y a plein de choses qui se mélangent sur l'envie de proposer cette journée et toutes les personnes qui se sont retrouvées pour l'organiser. On avait chacune des motivations personnelles et collectives. Je vais parler pour la mienne qui est de... Bah, du coup, je vis à côté de Saint-Girons. Et être féministe dans les petits villages autour de Saint-Girons, c'est complètement autre chose que d'être féministe à Toulouse, par exemple, parce que les réseaux sont plus distants, moins épais, plus épars. Et,
moins drus.
Moins drus, exactement. Et en même temps, je trouve que c'est aussi une autre réalité que de vivre, par exemple, dans un petit village. Et on voulait... proposer un peu aux personnes qui nous entourent, donc dans les alentours de Saint-Girons et les vallées plus loin, un peu de, voilà, nous, nos réflexions, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a envie de partager, et de créer un espace d'échange par des ateliers, par des discussions, par une bouffe partagée, des concerts, pour un peu ouvrir des espaces de discussion.
Et du coup, pour avoir une idée un peu concrète, vous étiez nombreuses à l'initiative. Enfin, est-ce qu'il y avait du monde pour soutenir un peu ce projet-là ?
Et alors, dans le groupe noyau un peu de l'Orga, on était 7, plus ou moins impliqués sur des tâches différentes. Chacune est venue un peu avec son énergie, ses envies. Et en vrai, on s'est rendu compte pendant la journée que c'était pas assez. Je pense qu'on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, qu'il y ait autant d'ateliers, qu'il y ait autant de propositions faites, soit avant, soit le jour même. Et donc, ce qui est plutôt bon signe, ce qui a été l'occasion un peu de stress pendant la journée au niveau de l'orga, mais plutôt d'une manière positive, dans le sens où on a été un peu débordés des propositions, des envies, de tout ce qui s'est créé ce jour-là. Et donc, on espère que le groupe de 7 s'élargira pour la suite.
Et est-ce que nous, on s'était demandé aussi si tu avais envie de dire un mot sur le fait que cette journée, elle était proposée en mixité et le fait qu'il y ait plein de personnes différentes qui se soient rencontrées, un peu comment tu l'as vécu.
Ouais, alors je sais pas si le troisième invité, Idir, est opérationnel pour répondre aux questions.
Ah oui ?
Oui, alors on t'entend pas très fort.
J'ai pas entendu la question en fait.
bonsoir Idir, ça y est.
Salut.
On l'entend. Oui, c'est compliqué parce que moi j'entends pas très bien ce que vous dites.
Ok, on va parler plus fort ou plus lentement ?
Plus lentement, ouais.
Plus lentement, ok.
Je répète la question du coup ?
Bah oui, je veux bien.
Ok, pardon, j'entendais pas au début. Alors, c'était sur, du coup, toutes les différentes personnes qui se sont rencontrées pendant cette journée, le fait que notamment cette journée, elle était en mixité. Comment tu ou vous l'avez vécu ?
Et alors, plutôt bien. je sais pas quoi dire d'autre. Plutôt bien. Enfin, moi, j'étais surtout... Je me suis beaucoup occupée de la technique, en fait, sur cette journée-là. Donc, du coup, quand tu fais la technique sur des orgas, tu sais pas que tu rencontres beaucoup les gens.
Oui.
En vrai. Du coup, c'est pas la question à laquelle je peux répondre le mieux. Mais par contre, moi, j'ai vu qu'il y avait une diversité de personnes qui avaient l'air de bien se rencontrer. Et puis, je sais pas, d'échanger des choses. Et voilà, quoi.
Est-ce que tu as envie de dire un mot sur cette question ou on parle plutôt d'autre chose ou...
je
parlais du coup à Marion qui était en plateau, je suis désolée.
Ah bon ?
On n'a pas trop l'habitude de faire un échange entre plateau et téléphone, du coup, c'est pour ça.
J'entends la radio chez moi, c'est cool, je vais galérer.
Ah. Ok.
Et du coup, peut-être, Bédir, tu pourras rebondir, mais l'idée de la mixité, ça a été discuté, on a penché pendant pas mal de temps pour des rencontres non mixtes. Et en fait, on est parti sur des rencontres mixtes parce que on avait envie vraiment que cet événement attire des gens qui sont pas forcément au courant de qu'est-ce que c'est le féminisme, qui connaissent pas forcément des féministes ou alors qu'ils ne le savent pas, et à qui en vrai la non-mixité fait extrêmement peur, et qui, je pense, si l'événement avait été annoncé comme non-mixte, ne serait pas venu. Par défense, par peur de ce que peut représenter la non-mixité. Et donc là, comme c'était vraiment une journée d'ouverture, on a voulu faire cette journée en mixité pour que chacun, chacune puisse venir s'informer, échanger et venir comme il ou elle est.
Et est-ce que c'était aussi intéressant de ce point de vue-là de de faire cette journée sur la place principale de Saint-Girons, ou presque, je ne sais pas, si peut-être je me trompe, dans un lieu public, je crois. Est-ce que, du coup, il y avait au moins cette... Je ne sais pas si c'était un choix ou pas de la part de... des organisatrices, organisateurs, mais ce lieu aussi, il y avait un symbole, ou je ne sais pas... C'est tombé comme ça, il n'y avait pas de choix. Mais en tout cas, il y avait aussi cet intérêt que, du coup, ça pouvait peut-être faciliter la venue des gens, je ne sais pas. Idir, je ne sais pas si tu as entendu ma question. Il y a aussi sur le plateau, on peut réagir comme vous voulez. Ne vous coupez pas la parole.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit retard, en fait, entre ce que Idir entend et ce que nous, on entend.
Mais c'est ça, il y a un retard, ouais. Okay.
Tu veux répondre ?
Il y a même grave un retard d'une phrase. Mais du coup, on avait vraiment envie de faire un truc à Saint-Girons. Pour que ce soit justement que le féminisme, en fait, qui se passe en Ariège, qui existe, dans des endroits très très localisés et puis en petits comités. Et vive une visibilité par rapport à... Excusez-moi, j'arrive pas à parler parce que j'entends et la radio avec le différé et moi je parle.
Ouais, pas facile, ouais. Ah ouais. Non,
et du coup, je parlais de la visibilité. Voilà, ça, oui, qu'il y ait une visibilité en fait en Ariège par rapport au féminisme et qu'en fait, on va dire que géographiquement, les choses elles s'organisent aussi par vallée et par zone. C'est-à-dire qu'au Mas d'Asile, il y a une très forte visibilité du qui est à le Mas d'Asile, pour situer, en fait, c'est à l'est de l'Ariège, et Saint-Girons, c'est plutôt vers l'ouest, en fait. Il y a à peu près trois quarts d'heure qui séparent ces deux endroits, et géographiquement, en fait, il y a des montagnes entre, ou des, enfin, des petites montagnes, le Piémont, on va dire, le Piémont des Pyrénées. Du coup, au Mas d'Asile, il se passe des trucs, parce qu'il y a une bibliothèque féministe qui s'appelle donc le Pôle de la Bête. Genre à Saint-Girons, il n'y a pas de visibilité des féministes parce que en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de lieu. Et on s'est dit, nous, on va faire un événement pour montrer qu'il y a des choses qui s'organisent à ce niveau-là, de ce côté-là, vers nos vallées à nous, quoi. Et aussi pour que les gens se rendent compte, en fait, pour se dire, ah, tiens, il y a des trucs féministes, moi aussi je suis féministe, ah, merde, je savais pas qu'il y avait des féministes, je savais pas que. Il y avait aussi d'autres, enfin dans le féminisme aussi, il y a aussi des minorités qui se rencontrent à travers le féminisme. Et du coup, ça visibilisait aussi ces minorités-là. Et c'est ça qui était super, super chouette, je trouve. Et après, il y a même des personnes qui se sont dit « Ah, mais vous avez fait une mauvaise com, parce que du coup, nous, dans les vallées à côté de Saint-Girons, on n'a pas eu l'info, on l'a su après, ou on l'a su trop tard, et du coup, en fait, on pouvait pas s'organiser pour venir, et c'est trop dommage. À la deuxième édition, communiquer ça dans les vallées autour de Saint-Girons.
Ouais. Voilà. Alors que c'est hyper facile d'avoir l'info de Toulouse, quoi. Alors que c'est plus loin, quoi.
Mais parce que Toulouse, il y a déjà du réseau, en fait.
Bah bien sûr, fort, bien sûr.
Et que du coup, on avait les liens aussi entre nous et vous, entre les organisatrices ici et vous à Toulouse. Et du coup, parce que ouais. En Ariège, ça marche pas du tout comme à Toulouse, en fait. Enfin, y a rien quoi qui se passe.
Tu l'as bien expliqué, on comprend bien, ouais. Voilà, ouais.
C'est l'isolement un peu.
Du coup, Ori, j'entends pas très très bien. Du coup, je suis pas extrêmement performante, mais je me disais peut-être le temps que les retours soient un peu meilleurs, puis pour faire une petite pause, on pouvait s'écouter une petite musique et voir ensuite après comment on reprenait le plateau. Ça vous va?
Ouais.
Allez.
Reste avec nous.
Ouais.
Ça marche.
You are my sister, we were born. So innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night.
you seem to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature.
You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister, and I love you.
So differently then, so similar over the years. The way we loved, the way we experienced pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one else will ever know.
Of my sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister.
Vous êtes toujours sur Voyelles 92.2 sur Canal Sud et on est toujours avec nos invités qui viennent nous parler des rencontres féministes de Saint-Girons. Du coup, on disait dans l'intro tout à l'heure de ce plateau qu'on allait discuter aussi un peu plus particulièrement d'un atelier qui avait eu lieu pendant ces rencontres. Donc c'était l'atelier féminisme et transidentité. Est-ce que tu veux, James, nous dire un peu comment ça s'est passé pour... La proposition de cet atelier, ce qui t'a motivé.
Ouais, moi ça fait, je suis trans et je suis féministe et en fait j'ai été féministe avant d'être trans et j'ai évolué beaucoup et appris beaucoup dans ce milieu-là ça a toujours été une envie et un regret qui est pas vraiment comme en tout cas moi je le souhaiterais dans mon monde idéal, de lien de fait entre le milieu féministe et les personnes trans diverses et variées. Et que voir, il y a quand même des grosses histoires de un peu misérables, quoi, d'exclusion et d'isolement des personnes trans de ces milieux-là. Alors que pour moi, il y a des thématiques qui sont très très proches et qui peuvent s'apporter les unes les autres. Et donc en parlant avec Marion et Yidir qui organisent cette journée, je me suis motivée pour préparer un atelier qui était sous forme fermée. Il y avait une vingtaine de participantes qui étaient mixtes. Donc on a discuté des liens qu'il y avait, on a repris des définitions que je peux aussi reprendre un petit peu là. Après, j'ai pas forcément envie de faire un compte-rendu de l'atelier parce qu'il y a des choses personnelles qui ont été dites. C'était sur des vécus différents des personnes par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a eu quand même un accueil de cette alliance-là qui est à faire, qui est à construire de la part des personnes féministes et de la part des personnes trans et féministes. Donc, on a parlé de transidentité.
Est-ce que tu peux nous définir, dire un peu, hein, oui, du
coup, ouais. Donc c'est les personnes concernées par la transidentité, c'est des personnes qui sont qui se retrouvent pas en accord avec leur expression de genre, avec le sexe qu'on leur a assigné à la naissance, qui leur a imposé une expression de genre qui correspond pas à leur envie personnelle. C'est des choses qui sont assez difficiles à se révéler à soi-même. D'abord, et ensuite qui sont vraiment difficiles à assumer auprès des autres, auprès de sa famille, évidemment, et auprès de ses amis aussi. Et qui, que ça peut être compliqué aussi de trouver des personnes ressources. Mais j'ai l'impression que là, en ce moment, on est quand même dans une époque où ça devient de plus en plus visible, donc c'est une très bonne chose. Qu'il y a des personnes trans aussi, comme moi, qui se sentent de pouvoir en parler plus facilement et tout ça. Moi, j'avais pas envie pendant cet atelier de parler de mon vécu personnel. Il y a juste quelque chose que j'ai partagé, que je trouve important, qui est que il y a une époque, j'étais transphobe aussi, et comme tout le monde, parce qu'on vit et on est éduqué dans une société qui est transphobe. C'est pas quelque chose qu'on peut nier ou de l'éducation qu'on a eue. Comme on a vécu dans une société qui est sexiste, et du coup, on a dû apprendre à sortir de ces cadres-là pour pouvoir assumer qui on avait envie d'être, dans le pouvoir de qui on est et auprès des gens de manière bienveillante, quoi, et riche. Et donc, c'est pareil, avant de dire que j'allais commencer un parcours trans ou de me dire que j'étais pas une femme, j'avais des a priori par rapport à des images fausses de stéréotypes de personnes trans que j'avais. Après, c'est en les rencontrant, en me rendant compte que c'est une possibilité, que j'étais pas obligée d'être une femme, que ça a commencé. Mon chemin a commencé. En tout cas, dans cet atelier, j'ai commencé déjà par partager ça un petit peu pour briser la glace. Qu'on est des personnes qui sont construites dans un milieu particulier et qu'on est là pour s'enrichir les unes les autres et faire nos choix. Et que c'est important de comprendre et puis de respecter les choix des autres.
Et du coup, sans trop rentrer dans le détail de l'atelier et ce qui a pu être dit par les personnes qui ont participé, est-ce que, un peu dans les enjeux qu'il y avait autour de proposer cet atelier-là et les attentes que toi, par exemple, tu pouvais avoir, est-ce que c'était plutôt un moment cool, un moment important ou chouette, où il s'est passé justement une rencontre, un peu le bilan, globalement
Moi, je suis sortie de l'atelier plutôt content. Je pense que tout le monde était assez content. On a trouvé ça beaucoup trop court. Ça a duré une heure et demie. On aurait vraiment pu y passer toute l'après-midi. Moi, c'était mon premier. Du coup, j'avais envie que ça soit cadré comme ça. Une heure et demie, c'était bien. et après, ça demande à ce qu'il y ait plus une construction sur le long terme, quoi, avec certaines personnes. Mais je pense que j'ai créé des liens avec des gens, ce qui est chouette. Aussi, j'ai vraiment eu envie de poser la question aux gens de comment est-ce qu'ils le vivent et de pas, moi, être expert en la matière de transidentité et féminisme. J'ai un vécu particulier qui me donne envie de parler de ces choses-là et de faire grandir le transféminisme. Mais j'avais envie vraiment d'entendre où les autres en étaient, et en vrai, j'ai été agréablement surpris, parce qu'en étant à Saint-Giron aussi, je savais pas trop comment ça allait se passer, plus de la moitié des personnes sur 20, du coup, étaient vraiment super favorables à ce qu'on parle de ça. Après, il y avait une ou deux personnes qui étaient plus conflictuelles par rapport à cette thématique, et c'était aussi bien de faire sortir ça.
Parce que du coup, il peut y avoir des conflits au sein du féminisme par rapport à...
Parlez-en vous. Est-ce que vous le savez, ça, non?
Oui, c'est vrai.
Non, je sais pas, moi j'ai envie de renvoyer aussi la question, comme j'ai fait à l'atelier finalement, de qu'est-ce qu'il y a, pour vous aussi entre la transidentité et le féminisme, ou qu'est-ce qui... Ou est-ce qu'il n'y en a pas pour vous à des endroits aussi?
Bah, moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le fait qu'on ait discuté ensemble après la première émission de Voyelle, et que donc moi, en tant que personne cisgenre, en tant que donc personne qui se définit du même genre que celui qui lui a été assigné à la naissance, bah, du coup, pas concernée par ces questions-là, bah, par exemple... C'est clairement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas visibilisé tous ces enjeux-là qui s'étaient passés pendant la journée. Et du coup, moi, je me dis que bah, dans la manière dont je conçois le féminisme ou les luttes, ou, eh ben, j'ai envie qu'elles soient partagées avec des personnes trans, qu'elles puissent prendre en compte ces enjeux-là, mais que ça peut aussi, à des moments, je peux reproduire ou je peux entériner le fait qu'il n'y ait pas des échanges... facile, bah, ouais.
En tout cas, c'est à ça que ça me fait penser. C'est vraiment ce qui s'est passé par rapport à Voyelle, de fait. Ouais, y a une chose qui m'énerve, en fait, dans le milieu féministe, et qui me rend, du coup, moins à l'aise dans ce milieu-là. Sur Toulouse, c'est le... que de plus en plus, il y a des personnes trans, on dit non-mixité. Marion, tu l'as pas dit tout à l'heure, laquelle non-mixité tu parlais, par exemple. Parce que moi, j'entends non-mixité, je me dis, ah, je suis pas bienvenue. Alors que, bah, en fait, de plus en plus souvent, c'est quand même des non-mixités meufs... Gwyn trans, du coup, je vais mieux réfléchir à la question si j'ai envie d'y aller ou pas. Et donc voilà, c'est des histoires de mots et de langage pour essayer d'avoir un discours non essentialiste et ouvert sur différents types de personnes qui se cherchent dans leur genre ou qui se sont trouvées, mais non, je me perds. Mais du coup, de fait, je trouve qu'il y a une sorte d'évidence que les trans font partie du milieu féministe sur Toulouse, sauf qu'il y a pas mal d'anecdotes dont j'ai eu vent où ces personnes-là se sentent pas à l'aise, se sentent pas vraiment inclus, et que du coup cette évidence-là, elle est... Enfin, moi je trouve que c'est super important toujours de questionner les évidences, quoi. Et que là il y a eu de fait quelque chose qui s'est passé qui a invisibilisé les personnes trans, alors que pour le coup, pour une fois, on était présents, et très présents, parce qu'il y a eu en plus un concert de Divine Céleste, qui est donc une personne trans qui fait de la musique reggae, et qui a été quand même un concert assez puissant, quoi.
Et justement, cette journée a pu permettre aussi de voir où on en était par rapport à cette question-là. Effectivement, quand tu dis qu'à Toulouse, c'est comme une évidence que les féministes et les trans sont dans la même mixité, au final, ou même non-mixité, ou mixité choisie. Mais au final, on n'en parle jamais vraiment et on n'a pas de discussion critique. C'est presque tabou parfois, alors que, effectivement, il faut peut-être se poser des vraies questions, mais positivement, pas forcément. Et on ne le fait pas assez souvent. Donc là, cette journée permet aussi de voir ça. On parlait de. Où en étaient les féministes d'Ariège avec cette géographie très difficile, etc. Mais même celle de Toulouse, dont je fais partie, il y a eu d'autres questions qui sont relevées. C'était très intéressant.
Et je crois, ouais, effectivement, tu as dit le mot tabou, et je pense que c'est vrai qu'il y a encore un tabou vraiment qui a à travailler. Et de pas forcément, aussi c'est ce qui se passe hein, parfois, de pas forcément accuser les personnes de transphobie et point, mais de dire mais en fait d'où ça vient, qu'est-ce qui te gêne là-dedans, et de voilà, et d'être curieux et curieuses les unes des autres, qu'on a des vécus super différents, et qu'en même temps, clairement dans la lutte féministe, c'est « mon corps m'appartient ».
Et après j'ai l'impression que c'est pas... et que c'est quelque chose aussi qu'on peut travailler un peu entre nous, mais cette chose-là d'évidence, et en fait de ne plus se poser les questions, parce que du coup, soit elles sont, disons, pour faire politiquement correct, on fait comme si du coup il y avait une inclusion de fait, et qu'elle était, elle permettait à tous et à toutes de se sentir bien dans les espaces, et qu'en fait, effectivement, parfois, et même on le voit sur les plateaux de radio, que... Là, c'est des moments où c'est important de verbaliser, de visibiliser, de partir de nos points de vue dans lesquels on est. Et en fait, il y a plein de fois, on n'arrive pas à se poser des questions pour en fait voir si tout le monde se sent bien, voir comment les gens ont envie, d'être genrés, d'être nommés, de pouvoir se sentir dans des espaces ensemble. Et effectivement, c'est plein de questions qu'il faudrait se poser. C'est vrai.
Après, j'irai un peu au-delà, où peut-être aussi les personnes trans, on n'a pas seulement besoin d'être inclus dans des espaces, on a aussi besoin d'alliances et de solidarité et d'action et de présence à nos actions. Sur, il y a besoin d'amour. Clairement, les trans ont besoin d'amour. Il y a beaucoup d'isolement. Et donc, c'est... Ben, voilà, il y a nouvellement peut-être une asso... trans et intersex va être créé sur Toulouse et du coup ça va être des nouvelles plateformes aussi pour inviter des gens, ça va être une asso mixte donc c'est aussi et féministe donc ça va aussi permettre de continuer à discuter de tout ça.
C'est le moment du coup, si ça vous va toujours, d'écouter le montage de ton texte du coup que tu avais lu pendant la journée. On fait comme ça? C'est parti.
Simplement un petit problème technique, on va se réécouter à partir de maintenant le montage proposé, le montage du texte. Moi, tu te dis ce qui se passe.
Que j'ai écrit il y a 3 ans. J'ai commencé à prendre de la testostérone il y a 5 ans. Elle, c'est mon ancien prénom, que je souhaite pas vous dire en entier, donc ce sera elle. Comment est-ce que je vais sauver elle? Qui a-t-il à sauver exactement? Qui a-t-il à sauver vraiment? Je suis toujours là, mais plus. Je suis la même personne et pas. Ce n'est pas si différent pour chaque être qui grandit, mais chez moi, c'est peut-être plus particulièrement visible. Je ne peux pas être cette petite fille souriante en maillot de bain au bord d'un lac. Je ne suis pas de ce même petit corps malade. Mais je vis depuis ce même corps, les mêmes douleurs, les mêmes mémoires, mémoires vives, honte, chose que je ne peux même pas avouer. Je suis cette petite fille. Elle est là. Je peux encore la faire vivre, la faire rire, grogner, dans mes danses, dans mes rites, dans mon cœur. Cet intestin qui s'agite, cet estomac, ce foie et ces ovaires m'interpellent. Ils me secouent, me déchirent. Pourquoi? Pourquoi ce par-être? Je suis parue, parure. Je porte un par-dessus qui me sied bien à l'évidence. Qui m'ajuste, qui lui-même me porte en fait vers des contrées que je ne faisais que souhaiter. Un rêve devenu réalité. Réalité, accablante réalité, exigeant rêve. Je suis ajustée, un petit peu plus, sur mesure, costume à ma taille pour pouvoir jouer librement, confortablement, avec acharnement. Acharnement à vivre. À décrocher une brume, une semence de bon vivre. L'amour que je te porte est incommensurable. Tu me manques et je ne te regrette pas. Cette contradiction me convient. Pas de chichi, pas de tracas à partir du moment où on range les émotions dans un tiroir, à partir du moment où on laisse passer le malaise organique qui existe en suspens, à partir du moment où on laisse le tiroir ouvert. Il y a bien des choses que l'on voit depuis cet endroit-là. Bien des choses que je ne comprendrais pas assis sur une autre chaise, ou depuis la balançoire, ô combien attirante de ma voisine. Une balançoire rose, fixée au sol, qui ne demande qu'à ce que je quitte mon skate dans un coin pour lui grimper dessus. Le problème est que je n'ai pas envie de faire des choses pareilles. Laisser mon skate, grimper sur mon perchoir, crier haut et fort « Je suis trans » depuis mon skate.
C'est déjà pas mal. Une cuve entière de tout ce que je ne sais pas, de tout ce qu'on me garde, que je me garde de savoir. On s'en dit toujours juste assez selon les circonstances, poli et réservé, politiquement correct. Et merde, ça y est, le mot est lancé, celui qui me fait honte, qui m'énerve, être politiquement correct. Si le mal, c'est les riches, alors il faut être pauvre. Si le sexisme, c'est les hommes, alors il faut être femme. Si le racisme, ça te concerne pas, alors il faut te taire. Et elle, elle est partie où, elle, là-dedans? Elle se transforme toujours, mais je sais de valeur sûre qu'elle se trouve dans cette pièce.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes toujours sur Canal Sud et vous écoutez toujours l'émission Voyelle. On a discuté un moment et on n'a pas le temps de poursuivre cette discussion qui pourtant le demanderait, mais quand même on avait envie de reparler un peu des perspectives là, suite à cette journée à Saint-Girons du 27 mars. Qu'est-ce qu'un peu il se dessine pour la suite
Pour la suite, déjà, je pense que pendant cette journée, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont rencontrées, qui ont discuté, qui ont eu envie de faire des choses ensemble. Donc ça, c'était un peu le but de la journée, donc ça tombe bien. Donc je pense qu'il y a plein de suites à droite, à gauche, dont on n'est pas forcément au courant. Je pense qu'il y aura une suite de cet événement-là, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est beaucoup à être motivés pour continuer. Ayant vu l'impact que ça avait à Saint-Girons, aux alentours et jusqu'à Toulouse aussi, ça nous a donné envie de reprendre, d'améliorer, de reconstruire, de continuer à construire sur des discussions qui ont été faites pendant cette journée.
ton côté.
Ouais, bah moi je vous invite à venir à un événement qu'on organise là avec un collectif. C'est une projection de Diagnostiquer la différence d'Annalise Ophélian. C'est un documentaire en fait sur la transidentité et la psychiatrisation des personnes trans. Et il est super bien, il est super intéressant. C'est à 19h, dimanche 12 juin, au Pavillon Sauvage, donc 35 avenue Jean Dagneau, à Toulouse. Voilà, et il y aura des petits encas aussi, et on commencera le film à 20h, suivi d'une discussion.
Super.
Merci beaucoup, c'était très bien d'avoir parlé de ça et merci à Idir qui est au téléphone, c'était compliqué mais vraiment merci beaucoup, si tu peux nous entendre.
Bah, merci à vous de l'invitation, à bientôt.
Et bah, à bientôt, merci. Puis on en parlait un peu tout à l'heure en off, quand on préparait l'émission, ça peut être aussi l'occasion d'avoir un espace un peu plus long aussi pour parler de ça à la rentrée ou à un autre moment, donc en tout cas vous êtes encore les bienvenus pour discuter à voyelle. Et tant qu'on en est sur se donner des dates, on va peut-être faire un peu l'agenda des prochaines dates sur Toulouse ou ailleurs.
Ouais. Alors, du coup, c'est le moment de sortir son agenda qui commence dès demain avec la poursuite de la mobilisation contre la loi travail, avec une nouvelle manifestation, hein, encore et encore. C'est rendez-vous donc pour les Toulousains et Toulousaines c'est jeudi 2 juin, demain, à midi au métro Palais de Justice. Alors c'est un parcours de manif qui me paraît complètement fou. Moi j'ai jamais vu ça, c'est le Palais de Justice, puis on part vers le boulevard Saint-Michel et on finit au bord de la Garonne.
N'importe quoi.
N'importe quoi, bon, va savoir, va comprendre. Voilà, donc du coup c'est rendez-vous demain. Ah, c'est parce qu'il y a le MEDEF par là. D'accord. Tout s'explique. Ok, d'accord, ça y est, j'ai compris. Merci de cet éclairage. S'il nous écoute, monsieur Gattaz, pensez. Ensuite, on continue. Vendredi, il y aura une projection du film qui s'appelle Trop noir pour être française, qui est organisé par le collectif Rage de racisé. Donc, je sais pas si Myriam, tu veux en...
Oui, du coup, qui nous a envoyé un petit mail qu'on avait envie de diffuser, qui présente un peu leur collectif. Je vous le lis. Notre tout nouveau collectif féministe antiraciste vous invite à regarder Trop noir pour être française, un film de Isabelle Bonny-Claverie. Avec la projection de ce film, passé il y a peu sur Arte, nous avions envie de contribuer à ouvrir le débat sur les questionnements antiracistes et intersectionnels. Trop noir pour être française est un film intimiste qui dessine le parcours de la réalisatrice Isabelle Bonny-Claverie. On y retrouve une fois de plus combien le passé colonial conditionne le regard de la France sur les personnes noires. À travers sa propre histoire familiale, Isabelle Bonny-Claverie retrace l'ancrage historique du racisme en France, le fait qu'il perdure grâce à une organisation dans cette France post-coloniale aux valeurs supposément républicaines et égalitaires. Depuis quelques années maintenant, on voit réapparaître dans différentes sphères de la société la rééclosion de groupes, collectifs ou associations s'emparant des questions de racisme. En France, ces questions sont encore trop peu discutées, dans nombre de cercles militants, mais brûlant les lèvres, les questions raciales se doivent d'être amenées par des personnes concernées. Cette soirée se veut d'être un soutien au camp décolonial organisé en août, qui a bien malheureusement eu une mauvaise presse. L'auto-organisation des personnes visées par le racisme d'État pose un réel problème, cela fait peur. La non-mixité proposée par ce camp d'été repose sur les mêmes principes de non-mixité que les féministes historiques ont imaginés. Rassembler des personnes ayant des mêmes vécus d'oppression afin de mieux organiser ces luttes, afin de prendre de la force, afin de créer de vraies solidarités. Nous avons la volonté de pousser ces questionnements avec des personnes ne vivant pas les mêmes oppressions, blanches et racisées, pour peut-être commencer à élaborer au fil du temps collectivement un discours collectif autour des luttes antiracistes et intersectionnelles. Nous vous attendons donc à 19h pour un moment de petite restauration et la projection aura lieu à 20h à la chapelle. Donc la chapelle, c'est 36 rue Daniel Casanova, métro Campos Caffarelli. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le collectif Rage de racisé, il y a une adresse mail, c'est rage2, avec donc le chiffre 2, racisé sans accent, et EE à la fin, @riseup.net.
Trop bien. On continue l'agenda avec la marche des fiertés samedi. Je ne sais ni l'heure ni le lieu.
14h.
Et le capital. Ouais, 14h du capital, merci.
Et il y aura un cortège radical.
Il y aura un cortège radical. Il y a un rendez-vous précis pour ce... Non. On trouvera.
Oui, je crois.
Et un tout petit peu plus tard, le même jour, il y a, du coup, je ne sais pas qui était détentrice de cette information tout à l'heure, le goûter de la case de santé. Oui.
À 15h, Arnaud
Bernard. À 15h, Arnaud Bernard. Et enfin, la dernière date que j'ai, mais peut-être que quelqu'un d'autre en a une autre, c'était un repas de quartier qui va être organisé par le planning familial de la Haute-Garonne le vendredi 17 juin dans la soirée, donc en début de soirée. Donc c'est rue Moiroux. Donc la rue Moiroux sera occupée. L'idée, c'est ramène ta chaise, ramène ta table et ramène ton plat à partager et on se rencontre. Et il y aura aussi une buvette et les sous apportés par cette buvette serviront à alimenter la caisse qui s'appelle les IVG hors délai. C'est donc pour les personnes qui ont besoin d'avorter mais qui ne sont plus dans les délais légaux en France et qui ont besoin du coup de partir à l'étranger. C'est des avortements qui coûtent très cher. Et du coup, on a de temps en temps des personnes qui viennent nous voir au planning à cause de ça et qui ont besoin d'argent. Et du coup, cet argent servira à ça. Voilà, est-ce que...
Une dernière petite info, donc ça se passe en fin de semaine prochaine. S'organise pour à Toulouse, donc du 9 au 11 juin 2016, à l'espace des diversités, les rencontres internationales des travailleurs et travailleuses du sexe. Donc ça se passe sur 3 jours, le jeudi 9, le vendredi 10 et le samedi 11 juin, avec des ateliers qui se passent donc exclusivement entre personnes travailleuses du sexe, mais des soirées qui sont ouvertes à toutes et à tous. Avec donc le jeudi soir, la pièce de théâtre « Je suis putain » et un débat qui suivra en présence du metteur en scène Julien Fauchat et de la comédienne Serena Nicli. Le vendredi soir, ce sera la projection du film « Payer sa vie » et un débat en présence du réalisateur Philippe Knorgorak, excusez-moi de décorcher le nom. Et le samedi 11 juin, une plénière en fin de journée et donc à chaque fois des ateliers, plusieurs ateliers dans l'après-midi et la matinée.
Et il y a une manifestation aussi le samedi après-midi, rendez-vous 14h.
Alors, sur le flyer, c'est 15h, ah. Et le départ, c'est Place Belfort. Ouais. Voilà.
Ouais. Ça y est, hein ?
Ça y est.
On s'écoute une petite musique, le temps que vous rangiez vos agendas et vos stylos,
oui.
Avant d'enchaîner avec la deuxième partie de l'émission.
C'est quoi comme musique ?
Je crois que ça va te plaire.
Oh, show blue, I don't you. Et rebonsoir. Vous êtes à nouveau sur l'antenne de Voyelle 92.2. Donc là, on enchaîne sur la deuxième partie de l'émission où on passe à un tout autre sujet, mais néanmoins très intéressant, sur les luttes actuelles des soignantes et des soignants des hôpitaux du CHU de Toulouse. Donc vous avez dû être au courant, en ce moment il y a pas mal de blocages, de grèves, d'occupations, de bureaux, de la direction. Il se passe pas mal de choses concernant le milieu hospitalier. Et nous avons du coup avec nous des personnes qui sont venues témoigner de leur... conditions de travail et aussi une personne qui est présente, qui a été patiente à Purpan, notamment au service gynécologie, qui sera là aussi pour nous parler un peu de tout ça. Donc merci à vous d'être venu. Il y a aussi une personne de Rangueil, pardon, j'ai dit Purpan, mais il y a aussi, c'est même hôpital, mais voilà, c'est grand. Et voilà, donc on va d'abord s'écouter un petit montage. Alors ça s'est passé, c'était quand ce blocage du tram ? C'était à l'appel des syndicats du CHU, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Il y avait eu, je sais plus, c'était il y a...
Alors, il y en a eu tellement, alors je me demande...
Il y a deux semaines ou...
Ça devait être celle du 31 mars peut-être.
Oui, voilà.
Ouais. 9 avril,
on y est, c'était le 3 mai, on était présentes sur les lieux et on a rencontré plein de gens très sympathiques, il y avait une très bonne ambiance et du coup il y avait le blocage du tram et on va écouter ça, c'est juste un petit son d'ambiance et on retrouvera nos invités après.
L'hôpital PDV, notamment les aides-soignantes, les AP et les sages-femmes, sont à sous-effectif constant. On nous a présenté une réorganisation du service lors du CHSCT du 8 avril qui démontre qu'il y a énormément de sous-effectifs et donc des risques pour la santé des agents. Suite à ce CHSCT, une des directrices s'est un peu libérée. Elle a carrément dit que si ses agents n'étaient pas capables de gérer leur stress, eh bien, elle n'avait qu'à les faire caissière à casino. Alors suite à ça, il y a eu une suspension de séance du CHSCT. Et au moment où on est sorti pour délibérer entre nous, ils n'ont pas hésité à fouiller nos affaires. Voilà. Donc la séance est enregistrée et ils le savent, hein, toutes les séances sont enregistrées, ce qui nous permet nous après de rédiger le procès-verbal. Et quand on a écouté l'enregistrement pour pouvoir rédiger ce procès-verbal, justement, on a constaté qu'ils avaient fouillé nos affaires tout en rigolant et en demandant à ce qu'ils prennent des photos et en faisant des commentaires sur nos résolutions, etc. Donc voilà, donc ce mouvement-là, aujourd'hui, cette journée de grève, c'est contre tout ça. On ne bloque pas réellement le tram, hein, c'est-à-dire qu'on profite de l'arrêt pour aller tracter et informer la population de ce qui se passe à l'intérieur des rames. Et puis après, on le laisse partir. Donc ce n'est pas vraiment un blocage, hein, c'est juste qu'on profite des 2 minutes d'arrêt pour informer la population.
Hôpital est en colère !
Il y a un souci, mais depuis longtemps, depuis le mois de juillet, il y a le personnel soignant qui est en grève par rapport à une restructuration, comme on dit dans le politiquement correct. En fait, on supprime des lits, on supprime des postes. Alors, ça se passe dans tous les services de l'hôpital, mais ça a débuté, entre autres, par le service gynéco de l'hôpital, où on est passé de 21 lits à 15 lits, et on a supprimé les postes par deux, en gros. Du coup, en termes de conditions de travail des soignantes du service, c'est juste hyper compliqué à tenir et ça va pas du tout. Elles se retrouvent dans des situations pas possibles. Et en tant que personne soignée, quand on débarque à l'hôpital et au service gynéco notamment pour avoir des soins ou pour faire des IVG, c'est la galère aussi. Il y a un temps d'attente hyper long et vu que les soignantes sont débordées, l'accueil n'est pas forcément au top ou l'accueil n'est pas forcément fait dans les temps. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise aux côtés des soignants et soignantes de l'hôpital par rapport à cette situation. Et maintenant, ça s'étend à tout l'hôpital. Les fermetures de lits et les fermetures de postes, c'est quelque chose qui s'étend à tout l'hôpital. Donc l'hôpital commence à se mobiliser au-delà du service gynéco, quoi.
Et voilà, donc c'était un petit aperçu de ce qui s'est passé à la dernière mobilisation, en tout cas, que je connais. Il y en a peut-être eu d'autres depuis.
Mais... Il y a eu une nouvelle journée la semaine dernière.
On avait fait un barbecue, c'était la semaine dernière justement, aussi pour alerter les gens et essayer aussi de motiver le personnel, parce que le souci du CHU souvent c'est que le personnel est tellement débordé, tellement qu'il n'arrive même plus à se mobiliser pour se mettre en grève, pour ses conditions de travail et aussi et alerter aussi la population de ce qui se passe un peu autour, de ce qui se passe à l'intérieur du CHU quoi.
Il y avait du monde à ce barbecue ?
Alors, il faisait très mauvais comme temps. Voilà, il y avait moins de monde que le jour où on a fait le rassemblement au niveau du tramway, ou le rassemblement au niveau du tramway. Je crois qu'on était pas loin de 100 personnes, peut-être même un peu plus, ou plus gros, une bonne centaine. Là, on devait être entre 50 et 60 personnes, quoi.
D'accord.
Voilà. Et après, on avait rejoint la manif qui avait. On avait fait cortège commun hospitalier pour la manif contre la loi travail.
Et oui, d'accord. Moi, je vous ai vu hein, d'ailleurs, je crois, quand j'étais sur la manif. J'ai vu une banderole CHU en colère ou je sais plus. Enfin bon. Et du coup, justement, toi qui viens de prendre la parole, quel est ton travail ? Que fais-tu ? Que fais-tu ? Raconte-nous, raconte-nous tes conditions de travail et tout ça.
Alors moi, je suis Julie, je travaille au CHU et je suis sur le secteur de Rangueil. Donc je suis en chirurgie plastique, réparatrice, reconstructrice et moyen brûlé.
Ah.
Voilà. Donc alors c'est un service où ils essaient de développer de plus en plus l'ambulatoire. C'est-à-dire que des hospitalisations qui duraient avant 3-4 jours, ils essaient de réduire le temps d'hospitalisation pour faire plus d'opérations sur la semaine. Et que les patients et patientes, alors nous c'est la majorité des gens sont des patientes, rentrent chez elles avec des soins à domicile.
D'accord.
Alors il y a certaines chirurgies pour lesquelles il n'y a pas eu trop de conséquences, il y a d'autres chirurgies, par exemple c'est tout ce qui est dermolipectomie abdominale, c'est les reconstructions après des grosses pertes de poids où on reconstruit au niveau de la peau du ventre en fait, en gros, hein. Voilà. C'est des opérations où il faut compter 4 jours d'hospitalisation. Ils ont essayé de diminuer à 2. Ils se sont aperçus qu'en fait, les gens revenaient par les urgences parce qu'ils faisaient des hématomes à la maison.
Oh là là.
Donc, voilà, ça, c'est une dégradation des conditions de travail. Hein. Avant, on avait 5 chirurgiens dans le service. Maintenant, on est passé à 7. Donc, c'est pareil, avec un flux opératoire qui est assez conséquent. Et donc, en fait, c'est ça. C'est qu'on a de plus en plus de travail, de plus en plus de paperasse. Énormément, je pense que ma collègue pourra en parler aussi. Je pense qu'aux urgences, c'est pareil. C'est même pire. De plus en plus de paperasse qui nous prend du temps. Et on a de moins en moins de temps à passer avec les patients, quoi. Voilà. J'ai même entendu une collègue récemment qui disait à une autre collègue qui était aide-soignante, mais passe pas autant de temps avec ce patient-là parce qu'il est valide. Ouais, non. Mmh. En fait, même si les patients sont valides, ils ont aussi besoin de parler. Et c'est qu'on est tellement stressé, tellement toujours en train de courir après la montre. Hein. Dès qu'on prend le poste à 6 heures, je crois que jusqu'à 14 heures, c'est très rare quand on a un moment pour se poser.
Mmh. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu, du coup, Karine ?
Oui, voilà. Donc moi, je suis aide-soignante dans le service de post-urgence médicale.
Mmh.
Donc, on accueille les patients des urgences qui nécessitent une hospitalisation, une prise en charge. Donc, c'est quand même dans l'ensemble pas mal de personnes âgées, pas mal grabataires. Et nous, notre souci au niveau aide-soignant, c'est que les infirmières, elles n'ont pas trop le temps de nous aider pour les toilettes le matin. Parce qu'ils sont plus dans les réunions avec les médecins ou dans le suivi, enfin, ils accompagnent les médecins pour les visites. Voilà.
D'accord.
Et puis il y a les prescriptions et tout ça. Du coup, disons que c'est pas toujours facile, évident, de prendre en charge seul les patients quand ils sont gravataires sur les toilettes et pour la mobilisation, pour les mettre au fauteuil.
Voilà. Donc, oui.
Il y a des collègues qui se blessent. Moi, je me suis fait mal aussi. Et puis.
Oui.
En devant porter quelqu'un toute seule, du coup, tu t'es blessée, c'est ça ?
C'était plus avec un lève malade. Je me suis fait mal en me cognant, enfin, en mobilisant le patient. Enfin, voilà. Mais oui, on se blesse aussi, hein, évidemment, en tentant de lever les patients seuls. Ouais.
D'accord. Bah, du coup, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait entendu un peu aussi par rapport au service gériatrie qui s'était mobilisé parce que, pareil, il y a des sous-effectifs vraiment importants et que les gens se retrouvent à devoir s'occuper de personnes qui sont vraiment très dépendantes des soignants et du coup et qui se blessent et qui se blessent au travail. Et...
Par exemple, en février-mars, il y a eu 19 arrêts maladie pour une trentaine de soignants dans le service.
19 arrêts maladie pour 30 soignants. D'accord.
Un peu plus d'une trentaine.
Ouais.
Et donc, on n'a pas toujours été remplacés, qui n'ont pas toujours été remplacés. Donc, ça complique encore plus la donne. Hein. Et voilà. Donc, en empathie, les patients aussi.
Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça, c'est que ça a des conséquences sur les patients directement, quoi, aussi.
Oui.
Mais du coup, ça fait combien de temps que ça se dégrade comme ça? Est-ce que ça se dégrade progressivement, vos conditions de travail et les conditions de soins aux patients-patientes? Mais vous diriez que ça a été progressif ou il y a eu quelque chose de radical qui a tout modifié, oui, qui a tout dégradé?
Alors moi j'ai l'impression que c'est à partir du moment où ils ont l'hôpital, il n'y a pas eu de travaux au niveau des bâtiments pendant plusieurs années. Enfin, par exemple Rangueil date de 1970, il n'y a pas eu de travaux, de gros travaux de rénovation, donc ça a fini par... voilà, ils ont accumulé une tonne de travaux, donc ils se sont retrouvés à devoir du coup reconstruire des bâtiments neufs. Alors moi j'ai l'impression que ça a commencé quand ils ont construit le nouvel hôpital gériatrique qu'il y a eu à Garonne. Donc là, on avait encore réussi à maintenir les postes, des postes qu'ils ont fini par supprimer par des non-renouvellements à la retraite.
Oui.
Voilà, les gens qui partent à la retraite ne sont plus renouvelés. Donc là, sur Purpan, ils ont construit l'hôpital Pierre-Paul Riquet, qui est tout neuf. Ils ont construit les nouvelles urgences, l'URM.
Urgence, réanimation et médecine.
Alors que les anciennes urgences dataient de 2000, sauf qu'en 2000, ils ne les ont pas faites assez grandes. Et là, ils sont en train de s'apercevoir que finalement, l'URM, la population de Toulouse a tellement augmenté que les urgences sont déjà débordées et donc ils n'ont pas encore prévu assez grand, quoi. C'est un truc... ils n'arrivent pas à anticiper que Toulouse grandit.
Voilà. Donc oui, dans mon service, il y a eu une ouverture de 4 lits suite au déménagement, mais par contre, ils n'ont pas embauché plus d'aides-soignantes et d'infirmières. Et ils sont plutôt peut-être dans la politique à l'inverse, de réduire peut-être le nombre d'infirmières.
Et là, ce qui est en train de se passer, par exemple, effectivement, au niveau de la gynécologie, qui va être le prochain secteur qui va être très impacté. Donc, en plus de... Donc, depuis qu'on avait manifesté par rapport à l'accès à l'IVG, qui devient de plus en plus compliqué, parce que quand on doit appeler pour un IVG, qu'on reste 3 heures au téléphone pour obtenir un rendez-vous, c'est très compliqué. Là, ils sont en train d'augmenter les lits de maternité parce que la maternité de Toulouse est prévue pour 3000 accouchements et ça fait au moins 6 ans qu'ils sont à 4005. Donc ils augmentent les lits, donc c'est très bien, ils augmentent les lits, mais sauf que derrière, ils augmentent pas le personnel. Donc le personnel se retrouve épuisé et puis c'est les patientes qui en pâtissent, quoi.
Ouais, moi je suis passée par les urgences maternité à Purpan, donc Paul de Viguier.
Paul de Viguier.
Et effectivement, j'ai été directement impactée par ce que vous décrivez. J'ai passé la première fois 8 heures à attendre pour avoir une échographie. Et derrière, on m'a fait revenir 2 fois où j'ai attendu 3 heures à chaque fois. Parce que il n'y a que 2 échographies dans tout le service d'urgence maternité. Évidemment, il n'y a que des femmes enceintes qui doivent toutes passer par l'échographie. Et de ce fait, l'attente est très longue. Le personnel est débordé, court dans tous les sens. Et ils ont beau mettre toute la bonne volonté du monde pour faire de leur mieux. On voit bien en tant que patient qu'on est en sous-capacité. Et finalement, pour la suite des soins, moi, dès que j'ai pu le faire, j'ai été me diriger vers le privé, puisque malheureusement, j'ai été baladée et presque maltraitée par rapport à la prise en charge de la douleur, etc., à l'hôpital public. Donc moi qui suis pourtant fervente défenseuse ou défenseuse...
Défenseuse
de l'hôpital public, j'ai l'impression que finalement on décourage les patients aussi de se faire soigner là-bas en serrant la vis des effectifs, du matériel et ainsi de suite, quoi. Et on le ressent vraiment en tant que patient.
Et oui, parce que quand on regarde un peu sur les propos des personnes qui sont interrogées dans des articles sur ce qui se passe sur le lieu de travail, dans le milieu hospitalier, bah, qu'est-ce qu'on lit ? On entend manque de personnel, épuisement professionnel, patient en danger, pas de projet médical, pas d'atelier thérapeutique, dysfonctionnement organisationnel, pression managériale, maltraitance, épuisement, charge de travail qui augmente, accident du travail qui augmente, pas de droit au congé, pas de réglementation du temps de travail. Déjà en 2014, à l'hôpital des enfants, il y avait des infirmières et des auxiliaires de puériculture qui étaient en grève et qui disaient qu'elles avaient deux infirmières et deux auxiliaires de puériculture pour 20 patients. Une infirmière pour 10 enfants, enfin, c'est donc la qualité des soins forcément diminue puisque il y a pas assez de personnes, donc c'est à la fois on parle des patients qui en souffrent, mais le personnel est en grande souffrance,
sachant
quoi.
Qu'en priorité quand il manque quelqu'un, il préfère appeler les agents plutôt que de faire appel à des intérimaires et ou service de remplacement, parce que ça coûte moins cher, et seulement donc ils nous rappellent sur nos repos, nos congés, et on est en droit de refuser, mais la plupart du temps, le fait qu'on culpabilise.
D'accord, il vous appelle alors que vous êtes en arrêt, quoi.
En repos. Et des fois congé aussi.
Et tu disais que vous êtes en train de refuser, du coup, parfois d'être rappelé, c'est-à-dire qu'il alors, y a un mouvement un peu collectif ou bien
parfois je refuse, mais c'est vrai que les collègues n'ont pas tendance à. Enfin, ne refusent pas, elle revient travailler, quoi.
C'est difficile de refuser. C'est difficile, oui, de se mettre dans cette position.
C'est très difficile, voilà. C'est vrai que maintenant, nous, on filtre. Enfin, moi, je sais, je filtre les appels. Des fois, quand je prends plusieurs jours de repos, j'ai pas envie d'être. Quand je vois que c'est l'hôpital qui s'affiche, je laisse le répondeur parler. J'écoute le répondeur. Et si jamais c'est pas pour me rappeler, je rappelle. Mais
ça aide pas à décompresser quand le travail me rappelle. Surtout que c'est un métier qui est prenant psychiquement. Oui.
Je comprenais pas parce que j'avais lu ce truc de harcèlement même sur son temps de repos. Et plus de limites entre privé et travail. Et du coup, je comprenais pas jusqu'où ça pouvait aller. D'accord, je comprends mieux maintenant. Ils hésitent pas à.
Et puis ils culpabilisent. Enfin, oui, je sais que quand les cadres appellent, oui, mais si vous venez pas.
Normalement, avant, il y avait des services de remplacement qui étaient assez conséquents et qu'ils ont réduits. Donc ça épuise forcément en revenant travailler.
Donc, dès que vous revenez travailler, vous vous retrouvez en arrêt maladie après, derrière.
Exactement ça. Là, ils parlent qu'en ce moment, donc l'hôpital est en déficit. Hein, donc, c'était prévu à la base 12 millions d'euros. Bon, il a un déficit de 25 millions d'euros. Et une partie de ce qui creuse le déficit, c'est ce qu'on appelle le compte épargne-temps. Donc, c'est tous les repos que les agents n'ont pas pu prendre dans l'année qui sont mis sur un compte. Ce compte est provisionné pour pouvoir remplacer ses agents dans l'année qui suivra. Et ça a créé un déficit de 2 millions d'euros. Donc, ils ne savent plus comment faire. C'est-à-dire que d'un côté, ils ne peuvent pas nous remplacer parce qu'ils n'ont pas les moyens de nous remplacer. D'un autre côté, s'ils ne nous remplacent pas, il faut qu'ils provisionnent 2 millions d'euros sur des comptes pour pouvoir un jour nous rendre nos repos. Voilà. Et donc, ils ont tellement diminué le pool, ce qu'on appelle ça des pools de remplacement. Donc c'est des collègues qui tournent dans tous les services, hein, et qui sont habitués, qu'ils arrivent plus à, on n'arrive plus à remplacer, quoi. On n'arrive plus à prendre nos repos.
Et du coup, comment ça se passe la lutte en ce moment ? Enfin, ça fait un moment. Moi, j'avais entendu que, par exemple, le personnel soignant était en grève à Paul de Viguier depuis. Déjà le mois de juin 2015, est-ce que du coup, comment ça se passe concrètement, l'organisation de cette résistance, enfin, est-ce qu'il y a une résistance qui se met aussi en place par rapport à ça, dans quelle mesure c'est faisable, c'est compliqué, je sais pas, c'est...
Moi, dans mon service, on râle beaucoup, les collègues râlent beaucoup, mais c'est vrai qu'on ne va pas vers les syndicats trop, donc on se retrouve un peu isolé. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les collègues vont plutôt claquer la porte et partent du service au lieu de se solidariser. Donc moi, je fais la démarche maintenant d'aller vers les syndicats, du coup. mais je suis un peu seule, quoi, on va dire.
Moi, je fais partie d'un syndicat. Voilà. Non, après, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il va y avoir une lutte dans un service. Pour apaiser la lutte, ils vont remettre un petit peu de personnel pendant un temps. Ce personnel, ils vont le piocher ailleurs. Ça va être des CDD à qui ils vont dire on n'a plus besoin de vous ici, donc vous allez dans tel service. Donc, elles vont renflouer le service pendant un temps. Donc, ça va calmer dans ce service-là. Mais du coup, ça va créer une tension dans un autre service. Donc, le gros problème qu'on a au CHU, c'est qu'on a du mal à coordonner les luttes. On a eu une lutte en décembre pendant plus d'un mois sur les urgences de Rangueil, où ils ont supprimé 8 postes aides-soignants, enfin 8 aides-soignantes, enfin 2 postes, donc ça fait 8 aides-soignantes, en tout, qu'ils ont remplacé par 6 infirmières. Donc c'est qui est un peu paradoxal, en se disant que les infirmières ça coûte plus cher, sauf qu'une aide-soignante qui a 20 ans d'ancienneté coûte plus cher qu'une jeune infirmière, à qui ils ne vont pas renouveler le CDD, ils reprendront une nouvelle infirmière derrière. Donc en fait, ils font des économies sur ça aussi. Donc en fait, voilà, le gros souci qu'on a, c'est de coordonner les luttes. C'est-à-dire qu'ils vont apaiser la lutte d'un côté, et puis ça va partir de l'autre côté, donc ils vont à nouveau apaiser. Voilà, et on n'arrive pas à se coordonner, quoi. Voilà. On n'arrive pas à lutter ensemble. En plus, le site est tellement grand, enfin, c'est 12 000 agents, c'est un truc, c'est énorme, quoi, là.
Voilà. C'est la stratégie diviser pour mieux régner.
C'est exactement ça. Et
en tant que patient, on le remarque aussi, puisque moi, quand je suis arrivée, je suis d'abord passée par les urgences. Et ensuite, ils m'ont renvoyée vers le service des urgences gynécologiques pour que finalement, à la fin des 8 heures d'attente, on me dise, dans l'idéal, il faudrait que vous retourniez aux urgences. Et sachant qu'à chaque fois, on me refaisait faire les mêmes examens qu'on m'avait fait une heure avant dans l'autre service. Donc là aussi, en tant que patient, on le voit bien que c'est du diviser pour mieux régner et que finalement, chacun reste sur son petit précaré parce que la coordination n'est pas du tout encouragée.
En fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'ils ont créé... Avant, le budget de l'hôpital était un budget pour tout l'hôpital. Il n'y avait pas de division, voilà. Sauf que depuis à peu près à la même époque où ça commence à se dégrader, ils ont créé des pôles. Hein. Donc moi, je suis dans le pôle uro, néphro, plastie, voilà. Il y a un pôle urgence, il y a un pôle mère-enfant, il y a un pôle... Et les budgets sont divisés par pôle. Donc en fait, des fois, quand on balade les patients, c'est parce que le pôle n'a plus de sous, des fois, et ric-rac, et qu'il y a des pathologies qui coûtent cher à l'hôpital. Tout ce qui est néphrologie, ça coûte extrêmement cher, par exemple. Et c'est des patients dont personne ne veut dans un pôle, parce que du coup, ça coûte des sous. Alors que tout ce qui est traumato, ça rapporte des sous. Donc ça, on veut bien de la traumato et de l'ambulatoire parce que ça rapporte des sous. Et c'est les gens qui, en général, vont dans le privé, finalement. Et tout ce qui est service lourd, qui coûte des sous, tout ça, personne n'en veut et on balade un peu les patients. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis.
Une histoire de sous. Ce qui dégage
de tout ça, c'est qu'on a l'impression que vraiment, c'est dans une logique... totalement budgétaire, d'argent, de rentabilité, oui. Et qu'on oublie complètement le côté humain de l'hôpital et que c'est devenu... Les gens sont des pions pour rapporter de l'argent.
Dans notre service, il ne faut pas que les patients restent plus de 5 jours, par exemple.
Plus de 5 jours.
Oui, il faut qu'il y ait au moins 5 sorties de patients par jour, en moyenne.
Et comment on fait? On leur met un coup de pied au derrière quand ils ne sont pas en forme? Comment on fait quand ils
y arrivent, donc...
On les envoie ailleurs. On m'a fait le coup, j'avais besoin d'une prise de sang pour un typage de groupe sanguin. Ils avaient fait la première parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et au moment de faire la deuxième, ils m'ont dit « Mais vous vous rendez compte, c'est vous qui creusez le trou de la sécu. » Et ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit « Ils me prennent pour une dinde. » Puisque de toute façon, l'examen, j'étais obligée de le faire. J'allais juste le faire ailleurs. Et donc, c'était ailleurs que j'allais creuser le même trou de la même sécu. Mais on prend vraiment les patients pour des dindes.
Ouais, sauf que ailleurs, en fait, tu aurais été dans le privé et du coup, tu aurais rapporté des sous à un laboratoire privé au lieu de... Voilà. C'est des sous qui partent.
Alors, j'ai insisté, j'ai eu mon typage, mais bon, je suis passée pour la méchante qui creuse le trou de la sécu.
Oh, mince alors.
Alors, je crois qu'on m'a demandé d'expliquer un peu ce qu'est l'ambulatoire. L'ambulatoire, en fait, c'est des hospitalisations. On est hospitalisé juste sur la journée. T'es opéré le matin, voilà, on est opéré, enfin les patients sont opérés le matin et ils sortent le soir à 18h. Et donc, quand ils sortent à la maison, ils sortent avec une ordonnance, avec des soins à domicile. Donc c'est à nouveau des sous de la sécu qui vont partir dans le domicile, en fait.
D'accord. Donc pour faire des économies dans l'hôpital,
on creuse
le trou de la sécu, enfin ouais. Le ailleurs. Fameux.
Faut creuser.
Sans creuser, c'est vrai que ça va.
C'est l'expression.
Oui, voilà, mais bon.
Qui fait peur.
Il n'est pas énorme le trou de la sécu.
Et puis pour faire culpabiliser certaines personnes.
Et oui, et le problème de développer l'ambulatoire, ça peut peut-être marcher pour certaines pathologies, mais voilà, quand on a fait une chirurgie. Dans l'idéal, il faut quand même de la surveillance après une chirurgie par des personnes compétentes. Et quand on est renvoyé à la maison, en gros, on peut se faire son infection tranquille chez soi et crever dans son coin. Et voilà, s'il y a personne, si on n'a pas la ressource pour appeler, ça peut causer des problèmes derrière qu'il n'y aurait pas à l'hôpital.
Alors en fait, ce qu'il dit, c'est que pour l'ambulatoire, il faut faut que la personne qui vient se faire opérer en ambulatoire et ne passe pas la nuit seule chez elle. Donc, en fait, en gros, c'est la compagne, le compagnon, une amie, un ami qui vient dormir à la maison pour surveiller.
Pour faire le travail de... des soignants.
C'est le travail des soignants. C'est sympathique.
Bon. Et du coup, est-ce qu'on se ferait pas une petite pause musicale pour repartir d'un bon pied pour les 10 petites dernières minutes qu'il nous reste pour aborder le sujet? Une petite musique courte, si possible. Est-ce que c'est possible, la technique? On me dit à l'oreillette que oui, c'est possible, oui, c'est formidable. 3 minutes. On se retrouve dans 3 minutes.
To the paper, press the envelope with my scent. Can you see in my handwriting the curve of my G? The longing. Oh,
Bonsoir, vous êtes toujours sur Canal Sud en direct de l'émission Voyelle. Pour les 7 dernières minutes de l'émission. Donc on est toujours en présence de soignantes du CHU de Toulouse.
Et patientes aussi.
D'une...
Oh pardon,
j'y venais.
Oh pardon, je vais te couper la parole. Vraiment, je vais te couper la chute, je m'excuse.
Et d'une patiente qui est venue nous raconter un peu son témoignage et son vécu en tant que patiente. Et voilà, et du coup on était tout à l'heure en train de discuter. Et d'ailleurs la discussion s'est même poursuivie... hors antenne, comme on dit. Et du coup, moi, ce que j'avais envie un peu de poursuivre, c'était ce dont on avait aussi discuté avant l'émission, tout sur ces histoires de bio-nettoyage et de privatisation aussi de certains services de l'hôpital. C'est des questions que je trouvais intéressantes. Du coup, si tu avais envie de nous en dire quelques mots.
Donc, alors c'est toujours dans le but de faire des économies, hein, parce que c'est en train de découvrir que l'hôpital est en train de devenir une véritable entreprise. En fait, donc à l'hôpital, ils sont en train d'externaliser, donc en gros, ils privatisent, mais ils n'utilisent pas ce terme-là, ils externalisent certains secteurs. Donc, ils privatisent tout ce qui est bio-nettoyage.
Donc, tu peux nous dire.
Alors, le bio-nettoyage, ce sont toutes les personnes qui font le ménage des chambres.
Donc, c'est un joli mot aussi, bio-nettoyage.
Bio-nettoyage, voilà. Ça, voilà. Donc, à la base, c'est fait par des agents de services hospitaliers, donc des gens qui dépendent de la fonction publique hospitalière. Donc, ces ASH, agents de services hospitaliers, ils sont en train de les former pour qu'elles puissent partir faire le nettoyage au bloc opératoire. Sachant qu'à l'heure actuelle, le nettoyage du bloc opératoire, c'est un nettoyage qui est très très particulier sur des normes d'hygiène très strictes qui se fait à l'heure actuelle par des aides-soignantes. Donc ils vont enlever les aides-soignantes des blocs opératoires. À la place, donc, ils vont mettre les agents de service hospitalier. Et les agents de service hospitalier qui faisaient les nettoyages de toutes les chambres du CHU sont remplacés donc par du nettoyage par des personnes qui viennent du privé en fait. Par une entreprise qui est Elior, voilà, qui va s'occuper de tout ce qui est nettoyage des chambres du CHU. Alors ça pose des gros problèmes, nous qu'on dénonce, moi en tant que féministe, c'est par rapport à la précarité des femmes, parce que c'est des emplois très précaires, c'est des femmes qui parlent très peu français, qui sont surexploitées, voilà, à qui on dit, faut faire tant de chambres, elles sont payées au mètre carré en fait. Au mètre carré qu'elles nettoient, elles sont payées. Voilà.
C'est dingue.
Voilà. Et nous, on n'a pas de poids là-dessus parce que c'est du privé. Et donc, on a beau le dénoncer, ils nous disent que non, ça ne nous regarde plus parce que ce ne sont pas des agents de service hospitalier. C'est l'entreprise Elior qui a aussi des CHSCT, donc Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Donc, c'est à eux de faire remonter au sein de leur entreprise privée les soucis qu'elles ont. Voilà. Donc, c'est ça. Ils privatisent aussi tout ce qui est brancardage. Donc, le brancardage, c'est les agents qui déplacent les patients d'un service à l'autre sur les brancards.
Qui, normalement, devraient être des soignants.
Qui devraient être des soignants, parce qu'il y a quand même des risques.
Est-ce que de devoir réanimer un patient pendant le brancardage, ils ne maîtrisent pas forcément. Ouais.
Et le brancardage, avant, était toujours fait à deux sur le CHU. Un agent qui était toujours face au patient pour voir si jamais il allait mal. Voilà. Sauf que maintenant, ils ont inventé des machines. Donc, le brancardage peut se faire à une seule personne qui ne voit plus le patient comment il est, donc qui ne sont même plus des soignants, donc si jamais le patient fait un malaise lors d'un transport,
ils ne sont pas habitués à repérer
les signes avant-coureurs. Mmh. Donc ça se voit beaucoup aux urgences, par exemple, vous avez été le premier service à expérimenter les brancardiers du privé.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Qu'eux ont pu se mettre en grève d'ailleurs une nuit, ça a bien posé problème au CHU.
J'étais pas au courant.
Au début, oui, ils se sont retrouvés, ils ont dit c'est pas possible, parce qu'ils étaient que deux brancardiers pour toutes les urgences, et en fait, ils ont dit c'est pas possible, nous on fait partie du secteur privé, on peut poser un droit de grève là, maintenant, tout de suite, on part chez nous. Donc ils ont rappelé des agents de brancardiers du CHU pour venir assurer le brancardage aux urgences.
Là où je trouve que c'est intéressant qu'on en parle, c'est que finalement, les gens qui, comme moi, ne travaillent pas dans l'hôpital, les patients qui peuvent venir de tous les milieux, de tous les métiers, etc., ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans l'hôpital. Et pourtant, peut-être qu'un jour, ils seront victimes d'un malaise où le brancardier ne sera pas formé pour les réanimer, d'un staphylocoque parce que la salle d'opération aura été mal nettoyée par une dame qui n'avait pas compris les instructions ou qui était en train d'essayer de faire un peu plus de mètres carrés pour avoir une paye complète. Et là, l'hôpital pourra se laver les mains et dire « c'est pas nous, c'est le sous-traitant ». Et là, autant on peut le faire dans les industries à Toulouse, dans les avions ou autres, parce que, bon, et encore, quand l'avion tombe, quand on dit c'est le sous-traitant, on est bien content, mais les 200 familles, ça leur importe peu. Mais l'hôpital, il est financé avec notre argent, avec l'argent de tous les citoyens. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette émission, c'est que finalement, c'est pas juste les soignants qui sont concernés, c'est tout le monde. Et quand on détruit l'hôpital, derrière, les conséquences, elles sont au quotidien pour les soignants, mais un jour, ça peut vous arriver à vous aussi. Et c'est là où on devrait soutenir plus ouvertement, nous, les citoyens, les soignants, quand ils vont faire la grève, c'est pas pour eux, c'est pour tout le monde, c'est pour nous.
Tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs, on vous invite toutes et tous.
C'était là où je voulais.
Voilà. Le 9 juin à 17h30, devant l'Hôtel Dieu à Toulouse, donc c'est au bout du pont Pont-Neuf, ouais. Voilà. À 17h30, on va faire du bruit pour rappeler à l'hôpital, à la direction, que l'hôpital n'appartient pas à la direction, que l'hôpital appartient à tous les citoyens et qu'il faut qu'on le défende. Donc rendez-vous le 9 juin à 17h30 pour défendre l'hôpital public.
Sinon, on aura des actionnaires bientôt pour faire du profit à l'hôpital.
Tout à fait. Et bien sur ces paroles tout à fait réjouissantes de se revoir bientôt sur des mobilisations, et bien on va devoir rendre l'antenne bientôt, non? Parce que nous, on a
10h29.
Pratiquement 29. 28. Alors, on a le temps de vous remercier d'être venu. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en quelques secondes, demi-minute?
Alors, j'ai l'impression qu'on a dressé un tableau un peu pessimiste de l'hôpital, mais si on est tous en lutte, on va pouvoir sauver notre hôpital public. Donc, tous et tous dans la rue pour défendre la santé.
Tout à fait. Parce que, franchement, moi, pour avoir été à l'hôpital récemment, les personnes vraiment galère, mais elles restent toujours souriantes et aimables, même si elles n'ont pas beaucoup de temps, et du coup, c'est bien, ça évite d'être agressif aussi avec le personnel quand on souffre, etc., quand on sait que les gens, ils souffrent aussi en face de nous pour d'autres raisons, je trouve que ça humanise un peu plus la personne qu'on a en face de soi, quoi. Donc c'est important de garder ça en tête. En tout cas, merci beaucoup d'être venu avec nous, c'était super.
Merci et, de nous avoir invité.
On se recroise bientôt, bon courage pour vos luttes à toutes et pour le reste. Et on se dit au revoir, on se revoit bientôt.
Oui, alors probablement une rediffusion de l'émission pas mercredi prochain, mais le suivant, hein, dans 15 jours. Je m'emmêle un peu les pinceaux. Donc dans 15 jours et prochaine émission de Voyelles en direct le 29 juin.
La dernière de l'année scolaire.
On aura retiré la loi El Khomri.
Ouais, la loi travail sera enterrée. Merci et bonne nuit à tout le monde.
Et merci la technique.
Merci la technique, vous avez été super.
Ciao.
Je vais mettre mes talons hauts, ça me remonte le moral. Ça fait sourire les fesses. Et même que des fois, le sourire y prend l'ascenseur le long de la colonne vertébrale et remonte jusqu'à la bouche. C'est incroyable.